Alors l'école s'est construite sur le désir de savoir, bien sûr. Mais elle se construit et s'installe toujours dans ce triangle des Bermudes, où le maître, l'élève, le savoir entretiennent à la fois des rapports et des relations, et où ces rapports et cette relation forment ce complexe institutionnel qui est enseigné, apprendre. Et il ne faut jamais perdre de vue cette mécanique de triangulation du tiers terme qui fait que chaque fois que le maître est limité dans sa relation à l'apprenant, l'enseignant à l'enseigné, chaque fois que l'élève lui-même est limité dans sa relation au maître ou au savoir, et tant mieux, c'est sur l'institution et par l'institution, par la méthode, par le déplacement institutionnel, par la construction de lieux, par la mise en place de matériel de transition, par la mise en place de techniques, qu'on va pouvoir fonctionner différemment. En fait, il y a là cette idée de faire signe, cette idée, effectivement, de passeur, qui est aussi le maître enseignant. Et là, nous rejoignons la façon dont François Tosquelliès présentait l'enseignant dans Éducation et psychothérapie institutionnelle, en rappelant que le pédagogue grec n'était pas l'enseignant. Le pédagogue grec était l'accompagnateur, l'accompagnant. Et donc ce pédagogue accompagnait l'élève du foyer familial à la palestra, où là, les enseignants enseignaient. Mais on voit bien que le fil conducteur, le fil d'accompagnement, est fait par ce pédagogue qui, littéralement, transporte l'enfant à la palestra, et le transport de la palestra dans la famille, et fait que ce transport soit aussi un transfert, comme d'ailleurs les institutions éducatives le disent, quand ils font des voyages organisés avec les jeunes enfants placés, c'est un transfert. Ben oui, ben c'est un transfert dans tous les sens du terme. Et donc, ce que montre bien Tosquelliès, c'est que, avec le développement et la massification de l'école et l'enseignement ont perdu leur transfert. Ils ont perdu ce qui fait le goût du savoir, ce qui fait le rapport au savoir, ce qui fait ce désir de savoir en mouvement et qui ne lâche plus l'apprenant lorsqu'il s'en voit emparer. Le pédagogue est toujours en sommeil chez le maître. Le maître est un pédagogue plus ou moins éveillé, plus ou moins en sommeil, tout dépend. Et c'est sûr, c'est difficile, c'est beaucoup demandé. Mais un maître qui n'est pas un pédagogue éveillé n'est qu'un maître qui enseigne. Effectivement, alors là, il pourrait enseigner à 1, 10, 100, 1000 élèves. Il pourrait même enregistrer son cours et le diffuser, dans le meilleur des cas, en idiovision. D'ailleurs, on voit bien que l'école connaît ces problèmes. C'est vrai que à la fois la relation enseignant-enseigné est centrale, en même temps elle peut tenir du double, du dédoublement. Et c'est là le danger. L'élève n'est pas le double, ou n'est pas un des doubles de l'enseignant. Du dédoublement, on peut tomber dans le double bind. Et du double bind, on peut retrouver le double au sens de Girard, c'est-à-dire le double mimétique, le double violent. Par conséquent, il y a toujours de la distanciation à mener, de la distanciation à tenir. Et c'est pour ça que le redoublement, entre autres, est superfétatoire. Redoubler pour doubler, pour se doubler, pour doubler la figure enseignante, la figure du savoir? Non. Revenons sur la pédagogie, c'est-à-dire, en somme, sur la qualité de la transmission, la structure de la transmission, le contenu de la transmission. Mais ce contenu est pris dans la forme. Le pédagogue n'enseigne pas. Il permet le rapport au savoir. Alors, pas de savoir sans transfert. Bien sûr, c'est complexe. Nous l'avons dit plusieurs fois déjà. Juste assez, ni trop, ni trop peu. Fut un temps, j'avais symbolisé cette problématique sous la forme d'un carré. D'un carré, un carré donc, aux quatre coins. Aux quatre coins du carré, on va trouver, bon, dans une diagonale, par exemple, l'enseignant et l'enseigné, mais ils n'ont pas accès directement l'un à l'autre. Lorsque l'enseigné se préoccupe de l'enseignant, l'enseignant de l'enseigné, en fait, ils sont obligés de passer par l'autre coin, chacun, du carré. C'est-à-dire, oui. La vision que l'enseignant a de l'enseigné, ce qu'il entend, ce qu'il perçoit, ce qui n'est jamais le sujet en lui-même, et inversement, c'est la même chose pour l'apprenant, l'élève. Il ne sait pas où est, qui est son professeur. Dans cette prise de relation fantasmatique, nous avons donc un éclatement aux quatre coins du carré d'une relation complexe qui fait que, la relation directe étant impossible, au centre même du carré, nous avons un trou noir. Ce trou noir qui empêche, casse la relation directe. En fait, sans en faire toute une histoire, on ne peut pas enseigner sans penser cette complexité relationnelle. Il suffit de se rappeler que la classe est un nid œdipien en sommeil. Et là, effectivement, ça permet de fonctionner autrement, avec certaines précautions. La classe est-elle au sens de Bentham et du panoptique. Christomatique, c'est-à-dire surcentré sur la personne de l'enseignant. Monovalente, monodimensionnelle, ou est-elle au contraire, comme Arduano et d'autres l'ont longuement explicité, multidimensionnelle, multifactorielle, sans accès direct de relations, sans accès direct au savoir, où justement la construction du savoir nécessite un périple, une démarche, des choix qui, bien sûr, vont soulever, on le voit dans ce dernier point du tableau, de l'angoisse, un peu beaucoup passionnément. L'angoisse, un peu beaucoup passionnément. Pas de savoir ni d'institution sans angoisse. L'institution angoisse. C'est une avancée. C'est une recherche. Il n'est pas possible de ne pas y laisser quelques plumes. Enfin, quelque angoisse. Et c'est là qu'on va trouver effectivement les recours dont nous avons besoin. Et c'est par exemple ce que Sylvie Canin appelle la pédagogie institutionnelle adaptée, même la pédagogie institutionnelle, qui est déjà à un très bon niveau de discrimination dans la difficulté, de travail et de convocation de la difficulté. Même la pédagogie institutionnelle doit s'adapter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut partir des élèves, de leurs problèmes, de ce qui se joue, cas par cas, dans cette question des besoins particuliers, encore une fois. Et on voit bien dans les quelques lignes que vous avez sous les yeux ce que Sylvie Canin nous dit. Elle parle d'effroi. Elle parle entre autres, c'est sa thèse là, publiée chez Champ Social. Elle parle entre autres de cet effroi convoqué par la demande scolaire. Cet effroi, vous savez, que vous avez connu peut-être. Vais-je réussir? Est-ce possible? Y parviendrai-je? Mais comment m'y prendre? Oh, je vais perdre pied. Je perds pied. Trop de pression scolaire, trop d'excitation, effractante. Effectivement, il y a là des effractions, des excès, des souffrances, des somatisations. Cette petite fille avait mal au ventre. Il était question de vie ou de mort. Ça paraît compliqué à nos penseurs qui se tiennent un peu trop loin de la psychanalyse. Et pourtant, c'est comme ça. Quelque chose peut nous envahir qui va nous empêcher d'apprendre, qui va nous empêcher de penser, qui va nous paralyser, nous rigidifier, nous angoisser jusqu'à ce que ce soit impossible de penser. Je vous engage vivement à aller plus loin. Vous trouverez sur mon site, d'ailleurs, la thèse de Sylvie Canin et d'autres indications sur le programme, par exemple, d'enseignement qu'elle propose de master qu'elle propose à Montpellier pour les maîtres spécialisés. Parce que là, nous sommes dans ce que Serge Boimard a appelé la peur d'apprendre et qu'il a rendu célèbre comme auteur. Ce psychologue, directeur d'un institut médico-éducatif, je l'ai rencontré il y a bien longtemps, et de temps à autre, avec Sylvie Cana, nous nous croisons, les uns et les autres. Et c'est vrai que Serge Boimard avait mis le doigt sur un problème central. Il nous dit, dans cette diapositive, vous le retrouverez sur Internet, en 2010, un élève à trouble du comportement sur deux n'est pas sensible aux propositions d'aide qui lui sont proposées dans le cadre scolaire. Ces élèves développent les stratégies de non-apprentissage, d'évitement. Ce n'est pas un problème neurologique. Ce sont des enfants qui ne supportent pas les contraintes liés aux apprentissages, même s'ils sont ludiques. Quand on a fait ce constat, il est clair effectivement que la moindre des choses, c'est pour ces publics en difficulté, dans le cadre de ce travail de la difficulté, c'est de faire autrement. De la peur d'apprendre à la peur d'enseigner, il n'y a qu'un pas. Et plus récemment, Serge Boimard a publié un livre sur cette question qui soulève un lièvre qui sans doute peut inquiéter nos enseignants, mais qui rejoint cette problématique dépressionnaire que je soulevais au début. Décrochage, burn-out, dépression. Le dépressionnaire à l'école, devant la peur d'apprendre chez l'élève, nous dit-il, il faut en effet constater qu'une peur d'enseigner chez les professeurs et les éducateurs produit toute une série d'effets négatifs. Évidemment, cette peur d'enseigner n'est pas reconnue. C'est difficile pour un enseignant, c'est difficile entre enseignants de reconnaître cette peur d'enseigner. Il y a donc là un malaise important qui mine et creuse la dépression scolaire. Je me souviens ici de petites techniques d'analyse de la situation d'enseignement que nous avions mises au point. Et par exemple, autour de l'idée entrer dans la classe, de travailler sur la première journée d'enseignement, les 10 premières minutes, la première minute. Vous êtes arrivé dans quel cas de figure, que vous a-t-on dit? Quel est le contexte? Qu'avez-vous en tête? Comment vous sentez-vous? Vous allez enseigner. Que se passe-t-il dans cette première minute lorsque vous arrivez? Vous êtes dans l'école, dans la cour, vous allez dans la classe. Que se passe-t-il dans cette prise de contact, dans cette rencontre, qui n'en est pas encore une? Or, comme le dit Jean Houry, s'il n'y a pas de rencontre, on est tout de suite dans la violence. La violence, c'est l'absence de rencontre. Et donc, dans cette première minute, que se joue-t-il? Dans les 10 premières minutes, comment se gère l'angoisse? Comment vous gérez votre angoisse? Comment se structure dans le contenu, dans ces relations éclatées, multiples, qui envahissent l'espace de la classe dans laquelle vous êtes? Comment cette angoisse se métabolise? Et comment vous vous sentez dans le courant de la journée et puis à la fin de la journée? Comment vous rentrez chez vous? Dans quel état? Et que vous dites-vous? Lorsque vous tentez un bilan de cette première journée, ne jamais négliger son angoisse. L'angoisse est un inducteur, intellectuel, un inducteur de situation. Mais là aussi, juste assez. Ni trop, ni trop peu.